chers Amus. Avant de faire l'impossible synthèse de vos impossibles discours, je vous propose un petit peu d'images et de sons, ça changera. C'est-à-dire que pour certains qui ne connaissent pas, j'ai 5 minutes ici sur la dernière édition du Festival des Arts Sonores CitySonics, non vu à la télé, qui se passe à Mons en Belgique, dans 8 lieux du centre-ville, avec une trentaine d'installations, une vingtaine de performances, mais ce sont avant tout des installations à dominante sonore in situ, c'est-à-dire qu'au moins le son est un matériau au moins traité de manière aussi égale que l'image, quand il y a une image ou un objet, en milieu intérieur ou extérieur. Et ici, c'est pas donc nécessairement avec de l'internet, mais c'est en général très nécessairement avec du flux urbain dans des milieux hétérogènes. Et j'avais proposé une possible intervention sur la ville sonore comme réseau, mais ce sera pour une autre fois, car ces deux journées étaient déjà très très condensées. Voilà. Donc je vous en passe juste 5 minutes de montage fait par une étudiante, en vous commentant brièvement, s'il veut bien. Il ne va pas me faire le coup qu'il m'a fait l'autre jour à l'Institut finlandais, c'est-à-dire à ne pas démarrer. Ah, voilà. Ici, c'est dans les anciens abattoirs de Mons. C'est une série d'installations plutôt qu'on a appelé Sonic Kit pour les enfants, donc avec les balassons sur le principe du bâton de pluie qui se... Alors voilà, nos amis Julien Claus et Lynn Pauk et leur merveilleux massage électronique. Les dessins des stations sonores fictionnelles de Pascal Broccolicchi, je dois arrêter de temps en temps, voilà. Et ces deux hyperprismes également dans la grande halle d'anciens abattoirs. Les hyperprismes qui sont donc des sculptures sonores génératives, pour faire court, et qui, dont le son qui est émis est en fait réalisé à partir des algorithmes des dessins 3D fictionnels de stations sonores qu'on retrouve également exposés sur des cimaises éphémères. Sur les hyperprismes, les dessins ULF de la série Micropure de Pascal, des cartes sonores interactives.
Puis, brise nord-est. Les gens d'église sans laisser de traces.
Ce sont en fait des étudiants du Frénois qui ont fait cela. Donc simplement pouvez écouter ce qui est écrit, parfois même autre chose que ce qui est écrit sur la carte, et on peut faire une espèce de composition aléatoire. On peut ouvrir toutes les cartes en même temps et les recomposer. C'est dans une chapelle de la Grand Place. Emmanuel Lagari, qui est un artiste de la lumière, plasticien sonore également, qui a travaillé sur toute une série de voix intimes pris de films sur le désir et la possibilité du désir ou du plaisir, la non-communication. Il y a un cube sonore et lumineux. Dans un autre espace de la même chapelle, ce sont des petits HP qui sont au sol, où se diffuse également une myriade de voix désirantes et intimes. Elles viennent également du plafond via une série de petites HP dans encore une autre partie de la chapelle. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte tout de suite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes voix qu'ils écoutent, mais selon qu'ils sont dans une configuration HP qui vient d'en dessous ou du dessus ou dans le cube sonore, et selon l'espace dans lequel ils sont, ils entendent des choses différentes. Un étudiant de l'école de Mons, qu'on travaille pas mal avec les écoles d'art, d'ailleurs Locus Sonus a été représenté par plusieurs de ses étudiants dans les éditions précédentes. Ici l'école d'art de Mons, Vibrating Body, c'est un étudiant qui travaille en fait sur la circulation du son électronique autour des articulations du corps, et ce qu'on peut voir dans le masque 3D, c'est une virtualisation du son qui se balade sur votre corps. Toujours ce corps qui nous titille de manière audio. Et là, c'est une image son également. C'est une Très très belle installation dans une ancienne machine à eau, c'est-à-dire une usine du 19e siècle en fait, qui servait à filtrer les eaux qui allaient vers la ville. Et c'est Todor Todorov qui est un compositeur électroacoustique et Fred Vaillant qui est un vidéaste. Tous les deux travaillent avec une chorégraphe belge assez connue qui s'appelle Michel Noiret qui utilise volontiers les technologies numériques. Un espace dans lequel il y a trois types de projections, il y a des théramines également. Ici, sur la verrière, qui est une très très grande verrière, ce n'est pas un écran, mais ce sont des pages d'encyclopédie sur le corps, justement, du 19e siècle. Et est projetée là-dessus une image de danseuse dans une espèce de flux chorégraphique. Ce flux chorégraphique interagit avec la manipulation de trois théramines que vous allez voir par les visiteurs et également la lumière en fonction de la proximité des visiteurs des écrans. Ça, c'est un détail parce qu'ils avaient investi toute la machine à eau, même les petits conduits comme ça, c'était des petits moniteurs avec des gestes de danseuse. Moniteur télé, voilà les théramines. L'interaction que vous voyez bien ici. Une projection zénitale dans un autre espace de cette même machine à eau. Donc là, flux sonore, flux iconique, flux chorégraphique. Très très corporel et spatialisé. Une performance dans les rues de Maubeuge à une demi-heure de City Sonics Mons. Ce sont en fait des performeuses qui font des petites séquences de texte, là aussi souvent autour du corps, assez arthaud j'allais dire, de performances de danse, parfois une petite chanson, uniquement pour une personne, un peu comme dans un peep show, qui les sollicite via un dispositif, une petite boîte interactive très simple qui leur dit en fait où elles doivent faire la performance et combien de temps. Ils peuvent arrêter ou continuer cette performance à volonté et l'entendre uniquement par un casque, ce qui donne évidemment toute une autre forme de dialogue et de perception. On a même vu des visiteurs donner leur numéro de téléphone aux performeuses qui en fait ne les entendaient pas, mais ça fait partie de la séduction et de la distorsion de ce genre de dispositif humainement interactif. On joue évidemment sur le voyeurisme. Le tout est filmé aussi par des caméras de surveillance et remis sur Internet. Ici, c'est aussi un étudiant de l'école de Mons qui se balade dans les rues de Maubeuge là et qui s'appelle l'homme enceinte. Bon, puisqu'il est bourré de petits haut-parleurs, également, il retraite les sons de la ville en direct, donc le flux urbain réincurgité en flux sonore dans la ville elle-même. La balade également, créationniste s'il en est. Alors ici c'est dans une ancienne poudrière, dans les remparts de Vauban. Ça n'a absolument rien d'électronique. C'est Alain Philippis qui est un des pionniers de l'art sonore en France, d'ailleurs qui collectionne les vieux phonogrammes et qui en a fait une exposition et également un set DJ en jouant sur des loops. Il utilise comme sonorisation uniquement les diffuseurs de ces différents phonographes des années 20 aux années 50. Il était au fond de la poudrière, au sous-sol en fait. C'est une douche sonore, c'est-à-dire que c'est une vraie douche, sauf qu'au lieu que ce soit de l'eau, c'est des traitements d'hommes et de femmes qui prennent leur douche, qui sont traités électroniquement et qui qui s'écoutent par le pommeau et diffuseur. Ici, c'est Isabelle qui a fait ses douches sonores, qui est aussi une masseuse holistique et masseuse sonore. Et donc là, c'est un complément à ces douches sonores, c'est-à-dire qu'elle utilise des bols tibétains qui sont très riches par leurs harmoniques, comme vous savez, et notamment un énorme bol qui est placé au-dessus de la tête et qui est une espèce de douche acoustique. Masse nos cellules, un effet plutôt de bien-être et de sérénité, et également le bol passé autour du corps ou sur le corps. Là non plus, complément acoustique à un traitement plutôt électronique d'un dispositif de douche classique détourné. C'est un collectif d'artistes français, vous connaissez bien Colin Ponto, je crois, de l'école, ex-école de Lyon, fils de Jean-Paul Ponto par ailleurs. Et ici, c'est une performance qu'on avait montrée à Paris aussi au Festival Octopus. En fait, il s'agit d'une file de ferristes, donc artistes du cirque belge, qui se baladent sur ce fil qui est peuplé de capteurs et qui déplace en fait des ondes radio en temps réel qui sont retraitées par Max, par ses collègues à la fois informaticiens et artistes sonores. Les mêmes ont fait une 24 heures pi, qui est en fait une voilà Colin, qui est en une performance. Ils ont fait ça dans une ancienne école, toujours à Maubeuge. Voilà, c'est une performance en fait pour petites voitures électriques, dont on a tous beaucoup aimé quand on était gosses. Ils font 24 heures exactement comme les 24 heures de Francorchamps, les 24 heures du Mans. Et alors il y a toute la culture course qui est là, donc ils proposent des hot dogs, des smart drinks, ils sont habillés en training, ils se font remplacer, ils se font masser éventuellement. Et ils ont mis des tas de capteurs et de sonorisation des voitures qui traitent en temps réel. C'est un prototype. On n'entend pas très bien les voitures, mais c'est plus divers que ça. Voilà, en training. Ici, c'est un hommage à Luc Ferrari qu'on a fait à Mons dans la Maison Folie, qui est une ancienne école également. C'est ici que des souvenirs d'exploitation du concept 2, qui est en fait sa dernière œuvre audiovisuelle et qui est pour moi un très bon résumé de son univers, de ce merveilleux promeneur sonore. C'est-à-dire qu'il a filmé différentes villes italiennes ou françaises ou appartements, ou également ses gravures érotiques, son studio. Il en a fait quatre écrans qui sont connectés, donc on a l'impression que les images se fondent les unes dans les autres, et en même temps il y a un traitement pour 12 sources sonores en aléatoire, et les gens sont assis sur des... ou allongés sur des transats, et certains sont restés 8 heures dans cet environnement, toujours différent. Ça me semble important de... Chaque fois, on essaye aussi d'avoir non seulement des jeunes talents, mais aussi des pionniers. On a eu Charlemagne Palestine, Philly Block, Tony Conrad, et le défunt Luc, qui est toujours très présent. Voilà, c'était juste un petit résumé d'une trentaine d'installations de cette édition. Et maintenant, je fais l'impossible. Est-ce que je dois changer de micro? Je pense qu'il est là.
Alors, synthèse en temps réel de vos circulations. Donc, une circulation dans vos diverses circulations.
Qui donc ne sera pas une synthèse, mais peut-être reprendre quand même quelques points d'interrogation forts, et surtout permettre peut-être d'avoir quelques éléments, qui sait, pour une prochaine discussion, un prochain symposium, puisqu'il y a toujours rebond dans ce genre de problématiques. Donc audio extranaute et cette combinaison, cette contamination, je dirais, audio entre réel et virtuel, auquel je préfère très nettement le terme d'actuel, un terme deleuzien à mon avis bien à propos, puisque ce côté binaire et virtuel me semble relativement obsolète, bien que là aussi on s'en sert comme deux pôles et qu'on navigue entre les deux en les, finalement le redéfinissant. Alors Roger Malina donc a rappelé que
en parlant notamment des milieux extrêmes, que l'espace virtuel n'est pas une extrapolation du monde physique, et on pourrait dire en sens inverse que l'espace physique n'est pas une extrapolation du monde virtuel, que les sons audibles n'étaient qu'évidemment minoritaires par rapport aux sons inaudibles. On pourrait parler de sons extra-audibles. L'extension des sens humains, de nos filtres, de nos décodeurs, de nos capteurs, toujours en retard finalement sur les phénomènes naturels, qui nécessitent des recours aux prothèses virtuelles, qui s'incorporent littéralement à notre réel actualisé. Samuel, c'est risqué en bon socio-VJ. Je prends celui-là parce qu'on entend moins. On entend moins la, ah oui, la respiration haletante de plaisir. Voilà, j'ai essayé de me prendre comme ça. Donc Samuel, notre socio-VJ sonus favori, c'est risqué à tourner autour de la notion d'audio extranaute. On l'attendait évidemment au tournant. Et de cette notion flou et peut-être à définir, mais faut-il à définir finalement de frontières entre s'il y avait cette séparation réelle, virtuelle. J'ai bien aimé la notion de multivers, mais on pourrait aussi parler d'inter-univers, peut-être. C'est ce dont on a parlé, il me semble, dans cette frontière dont tu parles. En tout cas, on a essayé de l'aborder. Et peut-être encore plus avant, de trans-audio-univers, c'est-à-dire de quelque chose qui dépasserait justement la nécessité de scinder ce qui au départ refuse de l'être plutôt par mutation et contamination, même si c'est important d'identifier évidemment les particularités. La notion d'ambiance que tu as citée une première fois et qui a été analysée et exemplifiée de manière assez précise par Jean-Paul Thibault. Et en définissant locus sonus, j'ai bien aimé ta définition d'un trafic d'ambiance, d'abord parce qu'il y a ce côté un petit peu délictueux qui nous plaît bien. Ensuite, parce que dans le trafic, il y a évidemment le flux, que ça klaxonne beaucoup, qui est en général beaucoup de perturbations, mais ça le rend d'autant plus sympathique et vivant. Et ensuite, parce que ça fait un peu trafic d'influence, mais j'aime mieux le trafic de confluence. Je crois que c'est une notion qui a été également, que tu as repris, une logique de confluence, dont le fleuve principal ou l'océan principal resterait encore à identifier, et quelque part nous échappe comme une sorte de magma ou boîte noire dans une saturation de tous les instants qu'est le web. Atto nous a parlé et montré la corporéité d'un corps capté, interacté, connecté, un corps flux activé, lié à des amplifications électro-neuronales de muscles. Et cette notion de proximité performative aussi qui nous a bien exemplifié finalement par son travail, mais aussi dans ses installations comme Global String, une installation en effet que j'avais pu voir aussi à Ars Electronica en 2001, et vous savez cette corde avec ses deux pôles définis qui sont ces deux villes, et entre les deux finalement le réseau qui devient non seulement une caisse d'amplification et de transmission, mais aussi une caisse de résonance et de reliance. Avec cette question, Internet est-il le médium idéal pour le performatif? C'est une question qu'il a lancée un petit peu comme ça, et je pense que c'est une question très importante qui mériterait tout un symposium peut-être. Peut-être faudrait-il redéfinir ce qu'aujourd'hui le performatif, justement, à l'aune de ces flous, de ces flous, tiens, j'ai essayé, de, voilà, entre flux et flou, on y vient, où le performeur pourrait peut-être produire en temps réel une action artistique dans des milieux multiples, connectés, devant des publics, eux aussi multiples et connectés, dans un temps certainement connecté et éventuellement multiple. Bref, le sujet d'un prochain symposium. Cette nette dérive dont il parle s'inscrit dans la filiation, il a rappelé aussi des situationnistes, quelque part en reconnectant ces situations de manière continue dans des milieux hétérogènes, une archéologie du présent et j'ai envie de dire une archéologie du futur immédiat. Ce qui me ramène à l'intervention de Julien Claus et cette idée de percevoir l'espace, pas seulement le mien mais celui des autres, par le son connecté et diffusé live, une espèce d'audio spatialisation fluctuante, Et bien entendu, ce flux peut être également abstrait, faire entendre de manière intentionnelle la machine, ses propriétés, ses défauts, ses retards, etc. Le flux peut être de manière à composition ou recomposition. Finalement, on n'a pas tellement parlé de ce que serait une composition fluctuelle, mais on l'a approché plutôt par le dispositif de manière diverse. Donc, quels seraient les, à l'aune de ces découvertes des composantes du dispositif, quelle serait sa grammaire dans ces processus et phénomènes également fluctuants, dans une espèce de jungle des signes, un flot de signes, voire une saturation qui nécessite pour l'analyser de l'arrêter un instant, de la fragmenter, de la discrétiser, paradoxalement, la nature du flux, du stream et du net, d'où la difficulté sans doute de pouvoir être précis à ce niveau-là, mais on voit bien que même dans l'analyse, il y a ce rebond et cette espèce de frustration dont on parle, à essayer d'être entre deux pôles parfois paradoxaux. Bastien, de l'étendue à l'extra-étendue, on connaît bien la notion d'étendue que Bastien nous rappelle très utilement souvent et qui n'est pas associée à cette notion d'espace qui est un mot de plus en plus difficile, de plus en plus pluriel et donc de plus en plus flou, j'allais encore le dire. Une multiplicité hétérogène entre lieu, corps et son. Il s'agirait de composer des sources qu'on entend et non pas qu'on ouïe. Donc toujours cette idée aussi de notre compréhension, finalement, de notre inadaptation au spectre beaucoup plus large que physique des sons, évidemment des images, etc., mais puisqu'on parle de son. Et cette nécessité de recomposer quelque part des lieux avec un espace des sources qui deviendrait architecture, un espace de diffusion qui deviendrait ambiance, un espace de propagation qui deviendrait plutôt milieu. L'écoute dont on a finalement peu parlé, peut-être sauf Angus, avec un côté description assez biologique de notre regard perceptif. Cet organe perceptif qui irait, d'après Bastien, je trouve que c'est une belle idée, qui serait plutôt une intention d'une composition, elle aussi, fluctuante. Toujours dans... Bastien donc est revenu vers l'audio extranaute, deuxième tentative. Que se passe-t-il quand cette étendue passe par un média? Les médias permettent évidemment de délocaliser l'étendue, peut-être de la relocaliser, avec ces exemples toujours éclairants de Bill Fontana, mais aussi d'Apo 33 qu'on avait vu dans le premier symposium, je pense, Locus Sonus. Donc le net qui n'est pas un média à proprement parler, mais le support d'une multiplicité de médias. Quelle serait sa spécificité comme lieu d'installation? Avec ce concept de remédiation qu'on trouve également par ailleurs, mais que je trouve assez bienvenu de revenir ici, on le retrouve plutôt dans la théorie des médias, concept de remédiation ici, une notion de remédiation infinie des contenus des signes, avec un même message qui peut être médiatisé par un autre et qui évacue du coup cette question de l'original s'il était encore là quelque part. Par rapport à Jean-Paul Thibault et la notion d'ambiance urbaine dont j'ai déjà parlé, je retiens quand il a parlé de Umwelt, cette notion d'entour ou de quelque chose qui une ambiance finalement spatialisé autour de nous dans une forme de régime où l'ambiance serait à prendre par son milieu, hein, et là on rejoint la notion rhizomatique de Leusienne qui a été vue par la suite, et le son qui nous entoure, et ce qui nous entoure serait peut-être ce qui nous pénètre, une nouvelle forme d'écologie ou d'anthropologie du son. L'idée aussi de ne pas dissocier les trois régimes d'emprise dont il a parlé, c'est-à-dire le lâcher prise, donner prise et l'avoir prise, accorder, moduler, altérer, et en quoi ces pratiques serait et en quoi finalement ces pratiques seraient justement à définir dans une forme de phénoménologie, également une nouvelle forme de phénoménologie pour le public. Là aussi, on l'a assez approché, on en a relativement peu parlé. Alors, qu'ai-je encore noté ? Dans cette impossible trajectoire, forcément, elle aussi rhizomatique. Le laps de Nicolas Bralet, bah déjà dans le titre... oui, tu es là, merci. Tout est dit. Quel est le laps justement de ces flux audio, puisqu'on a beaucoup parlé de perte de quelque chose qui nous échappait, notamment Jean a évoqué ça assez précisément. Dans cette volonté de radicaliser le médium que tu as utilisé dans l'Abs, de jouer avec sa matérialité, mais aussi sa corporealité du réseau, il y a une espèce de temps indéterminé où la transmission n'est plus vraiment sur un temps linéaire, mais plutôt flexible. Donc, comment construire un projet également sur l'indéterminé, sur une forme d'intemporalité au sens strict. Jean est revenu vers la notion de flux qui ne serait pas une réalité isolée et selon moi mais qui ne serait pas non plus une réalité isolante et qui se poserait dans un non-lieu, un débit, une variation d'état, avec cette notion de rythmicité, de temporalité multiple propre au flux qui ne serait pas une succession. Donc une espèce de temporalité 10-continue finalement. Là aussi dans quelque chose qui s'oppose mais qui finalement pourrait se compléter dans une espèce de qualité émergente. Le flux serait donc transgenre, si on pourrait dire. Mais qu'est-ce qui nous échappe finalement, qu'est-ce qui nous échappe et nous fascine en même temps dans ce flux, dans ces audioflux? Qui n'est pas seulement une circulation, mais également quelque chose qu'on n'arrête pas d'essayer de nommer et qui reste dans l'innommable, qu'on peut calculer, mais qui en même temps échappe à cela également, par une forme de dépense. On a rappelé la notion de Leusienne également de compte, de comptabilité. Et toujours par rapport à Deleuze, la nature des flux, avec cette notion de pôle qui implique, mais aussi est impliquée, je pense, tu as bien fait de le préciser, par l'idée... discontinuité, on y était. par l'idée des flux, pardon. Donc, littéralement, on pourrait dire que le flux débloque, il débloque le flux, en fait, hein, peut-être comme moi en ce moment, mais il débloque dans les deux sens. Et là, notre cher ami Bernard Stiegler, membre du comité scientifique, dont l'esprit n'arrête pas de nous bénir en ce moment, du haut de son beaubourg institutionnel, bonjour Bernard, et la notion de société hyper-industrielle, ici dans une notion qui pourrait nous ramener à une création hyper fluctuante. L'audio hyperflu, on peut se gargariser assez longtemps évidemment de ce genre de néologisme. Mais ce qui est assez intéressant dans les écrits de Stiegler, c'est évidemment cette notion de flux libidinal et une forme de libération des pulsions, qui ne veut pas dire nécessairement une forme de libération du plaisir, ni une libération de la création, mais en tout cas une libération également des pulsions sonores. C'est ce qu'on a pu écouter dans les différents exemples, je pense. Une quand même grande liberté. Alors, l'esthétique du flux, là aussi, on n'en a pas parlé, et pourtant, Jean a bien dit qu'elle apparaissait quelque chose qui serait une sorte d'esthétique du flux, circulation, articulation, des faisceaux à la fois distincts et rejoints. Mais toujours pour suivre Stiegler, dans cette notion d'esthétique également, qui dit esthétique dit immanquablement politique, donc positionnement par rapport à une forme de grille ou de jugement, de valeur, positionnement sociétal. et que certainement ce dont on a parlé aujourd'hui était aussi de cet ordre-là au sens large, même si personne ne l'a revendiqué et qu'on sait qu'il y a aussi des actions beaucoup plus militantes que ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est toujours intéressant. Alors, comment constituer ces trajets de pensée et non pas de captation et d'altération ? C'est la question ouverte sur laquelle nous a laissé Jean. J'ai bien aimé aussi dans ce qu'Angus nous a dit, et je l'ai écouté avec d'une oreille parce que j'étais en train de résumer deux jours d'intervention de l'autre côté, je m'en excuse. Mais en tout cas, j'ai bien aimé sa citation de Michel Serres, dans laquelle nous écoutons également avec la peau et plus généralement avec tout notre corps, et de cette espèce de corporalité du son que nous a montré finalement Atao par sa performance. On peut aussi la sentir par le flux, j'allais dire envers et contre Internet, envers et contre une forme de machine qui n'est pas toujours désirante, mais qui l'est peut-être si on y injecte autre chose. J'ai noté des choses tellement mal que je n'arrive même plus à me relire, ça fait partie du flux. J'ai aussi bien aimé sa notion de soundscape et aussi d'anti-soundscape, donc un petit pied de nez au dictionnaire, à dictionnarite immanquable qu'on a connu chez Pierre Schaeffer et qu'on a vu aussi dans une autre sphère chez l'autre Schaeffer, et le fait que entre ce soundscape et l'anti-soundscape, il y avait peut-être aussi une notion de nouvelle justement de soundscape à redéfinir ou à réinterpréter. Donc audio flux, audio skin, audio flesh, la chair de l'audio qu'on nous laisse pas toucher, mais qu'on nous laisse entendre de manière continue. Alors audio extra-connexion, extra-circulation, extra-diffusion, extra-perception, extra-écoute, extra-milieu, extra-temporalité, extra-sonus. Alors intra ou extra, et pourquoi pas littéralement inter-audionaute. Voilà, une fin qui n'en est pas une.